Bonjour à tous, je m'appelle Amicie Le Sieur et vous souhaite la bienvenue sur Milk and Mama, le podcast des femmes qui osent faire bouger les lignes. Bonne écoute.
Enfin, je dirais que c'est les femmes qui font la famille. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on ne sache pas où est-ce que la photo a été prise, quand est-ce qu'elle a été prise. Ce que j'essaye toujours, c'est de me rapprocher de l'enfant que j'étais. C'est pas grave si on rate. Oui, j'étais bonne élève, donc il y avait cette injonction à ce que moi, je ne sois pas artiste. C'était de gagner notre vie, elle l'avait gagnée. Et c'était d'être indépendante et de ne rien devoir à personne, c'est-à-dire de pouvoir se débrouiller seule. Ouais, ça, c'était hyper important. J'ai plus du tout cette peur du mois prochain. Enfin, ce qui était assez fabuleux, c'est qu'à chacune des séances, je ressortais en ayant une pêche incroyable.
J'ai découvert Joséphine par la splendeur et la singularité de ses photos. Car ses œuvres nous transportent et nous ramènent à des souvenirs heureux. Joséphine est une artiste et elle expose aujourd'hui son travail dans le monde entier. Ici, elle nous raconte comment elle a réussi à s'accomplir en tant qu'artiste. Elle nous parle des résidences d'artistes, de la manière dont elle travaille et comment elle trouve son inspiration. On parle des femmes dans l'art, des femmes dans sa famille et des femmes atteintes de cancer, qu'elle a photographiées pour Octobre Rose en essayant de mettre de la beauté et de la poésie dans la maladie. On parle de la petite enfance, du rôle de la fratrie et de l'héritage familial qui, qu'on le veuille ou non, infuse largement sur les adultes que nous devenons. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans cette conversation, c'est de découvrir à quel point Joséphine laisse une grande place de hasard et de destinée dans son travail et dans sa vie. Car Joséphine n'a pas peur de déplaire, au contraire, elle considère qu'il faut oser se tromper pour s'accomplir pleinement. Ce que j'ai adoré dans notre échange, c'est de voir à quel point Joséphine suit son instinct et écoute sa boussole intérieure, ce qui rend son travail et sa personnalité si intéressant et singulier. J'ai aimé son rapport au temps, si contraire à celui que nous impose la société, la place de l'immaîtrisable et du hasard, si présent dans son travail et sa philosophie de vie. Cette part d'incontrôlable qui rythme nos vies et dont toi, Joséphine, tu as décidé de t'emparer pour rendre tes œuvres si spontanées, rares et précieuses. Merci Joséphine pour ta liberté de penser et de vivre qui rend ta nature et ton travail si unique, prodigieux et insolite. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Joséphine. Bonjour Joséphine.
Bonjour Amicie.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
Merci à toi.
Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu en es dans ta vie aujourd'hui ?
Alors, je m'appelle Joséphine Vallée-Franceschi, je suis photographe, je réalise des surimpressions argentiques. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien l'idée que la photographie soit un cliché qui capterait juste un moment, qu'il en dise plus et invite au rêve et surtout qu'il puisse inviter au musée intérieur des gens qui le regardent. Et alors, où j'en suis aujourd'hui ? En ce moment, je suis un peu à la croisée de plusieurs chemins puisque je suis entre la photographie, mais aussi l'écriture et aussi le film. J'ai un parcours où justement je viens plutôt du cinéma. Dans mon travail, il y a cette volonté de raconter des histoires. Je consacre les moments à venir à l'écriture d'un film, d'un long métrage. Et voilà, donc je suis entre plusieurs médiums et ça me plaît bien de me dire que je ne suis pas uniquement dans la photographie. Et si je fais de la surimpression, c'est qu'il y a justement cette volonté de mouvement. Et je pense que c'est la suite assez, pas logique, j'aime pas ce mot, mais en tout cas spontanée.
Et du coup, tu dis que tu viens plutôt du cinéma, parce que du coup, tu as fait quoi comme études ? T'es née où ?
Je suis née à Paris, même si je me sens en Corse, c'est des racines qui sont très importantes. Et j'ai évolué à Paris et en fait, j'ai fait plutôt un parcours plutôt atypique, puisqu'en fait, j'avais fait des études littéraires, une hippocagne, une cagne. Et en fait, après, j'ai continué un master de lettres. Je suis partie vivre à Rome pendant 2 ans. On coordonnait un festival de cinéma français qui existe toujours d'ailleurs par Unifrance. Tout ça, je faisais en même temps en parallèle mes études de lettres. Et après mes années romaines, je suis revenue à Paris. Et après cela, en fait, je me suis beaucoup lancée dans... Je faisais des lectures de scénarii, en fait, pour des boîtes de production, pour le CNC, pour des chaînes de télévision aussi qui produisent le cinéma français.
Donc à la base, quand t'as fini ton bac et t'as commencé tes études, t'avais pour ambition de travailler dans le cinéma ou c'était un peu flou ?
J'avais pour ambition, oui, de travailler dans le cinéma. Et après, en fait, le cinéma, il y a quand même quelque chose qui est à l'encontre en fait de l'industrie, c'est que c'est des temps très longs. Parfois un développement de film peut durer 5-10 ans. Bon, parfois c'est évidemment plus court, mais c'est des temps qui moi ne me convenaient pas, dans le sens où j'ai une façon de faire qui est très spontanée, j'ai envie de faire et d'être soustrait à des commissions, à des je trouvais ça assez contraignant.
Et à partir de quel moment tu as commencé à faire de la photo ?
J'ai toujours eu un appareil de photo dans les mains. Depuis que j'ai 6-7 ans, puisque mon père était photographe.
Je voulais savoir comment tu avais appris ton métier, si tu avais fait de la photo depuis toujours. Alors, effectivement, si tu es un papa photographe, tu as été naturellement un peu baignée dans cet univers-là.
Voilà. Je dirais que c'est 2016, un petit peu le moment où je me lance complètement, puisqu'en fait, il y a eu un moment où on peut le dire, je pense que j'ai mis un peu les doigts dans la prise et où ma vie professionnelle n'était pas exactement celle que je voulais. J'étais beaucoup dans les projets des uns, des autres, dans les scénarios des uns, des autres. Et en fait, je n'étais pas dans mes propres projets, donc je n'étais pas créatrice. Et je pense qu'il y a eu un manque d'alignement en 2016. Et donc, j'ai eu un bon passage à vide. Et je pense que la photographie m'a permis justement, comme c'est un média qu'on peut exercer seul, et c'est ça aussi la photographie, c'est que c'est un partage. Ce que je veux dire, c'est que le dispositif permettait et permet de pouvoir être plus solitaire dans sa pratique et de pouvoir être plus indépendant.
Du coup, tu as lâché ton job et tu t'es mis à la photo full-time ?
J'avais reçu des prix de photo.
Parce qu'au début, tu commençais à faire de la photo en parallèle de ton métier.
Oui, exactement. Ouais.
Et comment tu montrais ton travail ?
Concourait un petit peu comme ça, il se trouve que ça a plutôt bien marché. Et puis après, j'ai fait une première exposition, je me souviens, c'était à l'hôtel Jules et Jim. Et voilà, c'était ma première exposition seule à Paris. Après, c'est venu progressivement, de toute manière, c'est un chemin. Et ce qui est amusant, c'est justement le chemin et de voir toutes les graines qui ont été plantées et qui forment des champs aujourd'hui, mais qui j'espère... Les graines continuent à être semées encore aujourd'hui, donc c'est ça qui est réjouissant.
Il n'y avait pas de plan à la base, en fait. Tu as commencé à exercer un peu ta passion, à proposer son travail, et puis finalement, tu t'es fait remarquer.
Ouais, c'est un peu ça, exactement.
Mais c'est pour ça, moi, que je voulais t'interviewer, parce que moi, on ne le voit pas, parce que c'est de l'audio, mais moi, j'ai remarqué ton travail que je trouve fabuleux. Franchement, je trouve tes photos magnifiques et différentes de ce qu'on voit. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... ton univers, ton style, qu'est-ce que tu as envie de montrer à travers ton travail ?
Il y a une forme de grande gaieté dans mon travail, même si je pense que c'est empreint de... Et c'est ce qui touche certainement les gens, c'est que oui, c'est empreint d'une certaine... pas mélancolie, mais si, j'ai un petit goût pour la mélancolie, oui. Mais une mélancolie heureuse. Je ne sais pas si vous écoutiez cette émission d'Eva Bester qui était Remède à la mélancolie sur France Inter et que je trouvais juste incroyable parce que justement, elle interviewait des gens et elle demandait quel était leur remède à la mélancolie. Et moi je ne sais pas, j'aime bien me dire que mes photos sont peut-être des remèdes aussi à la mélancolie.
Et qu'est-ce que tu prends en photo ? C'est quoi les choses que... Quand tu exposes, qu'est-ce qu'on voit ? Parce que moi, j'ai vu pas mal de mers, mais j'imagine que tu fais aussi plein d'autres choses.
Alors, effectivement, c'est beaucoup des paysages, beaucoup des silhouettes. Et ce que je veux, c'est que ce soit des impressions, de rêves. À chacune de mes expositions, mon intention, c'est de faire voyager, mais autour d'une histoire. En fait, ce que j'aime, c'est aussi d'inviter les gens à venir dans mes histoires qui sont parfois... très farfelu.
Et quand tu pars comme ça faire un reportage photo, tu pars toute seule avec un plan en disant bah, je vais shooter dans tel endroit, tel monument ou tel paysage ou telle personne, ou tu pars comme ça, tu dis vas-y je pars 15 jours et je vais voir en fonction de ce que je vois, ce que j'ai envie de prendre en photo.
Alors je me permets parce que le reportage c'est vraiment quelque chose d'autre. Là c'est plus je dirais une série onirique. En fait ce que j'aime bien aussi c'est de me dire je pars. Je prends toujours 2-3 jours pour juste regarder l'endroit, mais pas prendre de photos forcément. Juste de voir ce qui vient. Et en fait, je pense qu'aussi, l'inspiration vient souvent, je sais pas, un café ou de la flânerie ou d'une lecture ou de lire le journal ou enfin, en fait, de quelque chose qui peut paraître anodin. Et en fait, qu'il ne l'est pas. Ça dépend des temps pendant lesquels je pars. Mais en tout cas, c'est de juste pas avoir d'idée au préalable et de justement se laisser pénétrer par quelque chose qui viendrait nous donner une inspiration.
Tu es lauréate du prix des jeunes talents de photographe en 2022. Est-ce que tu peux nous parler de ce prix ?
En fait, c'est des agents de photographes qui se réunissent pour décerner ce prix chaque année. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que les inscriptions sont maintenant pour candidater. Et en fait, il permet d'exposer dans une galerie. Alors, il y a le prix illustration et le prix photographique. Voilà, c'est dans deux galeries parisiennes. Aussi, l'idée, c'est de pouvoir être soutenu par ses agents, ou d'être épaulé ou voilà, de demander conseil. Voilà, c'est un prix qui est assez... assez chouette.
Ça t'a ouvert des portes ?
Ça m'a donné une visibilité. J'ai l'impression que les gens aiment bien les prix. Voilà. Mais c'est, ben, pourquoi pas ?
Ben, c'est vrai que t'as quand même pas mal exposé. Là, tu me disais que t'allais beaucoup bouger pour montrer ton travail. Tu peux nous raconter un petit peu, même tu m'as parlé de résidence d'artiste. Tu peux nous raconter ?
Alors effectivement, oui, je bouge beaucoup. J'ai fait pas mal de résidences. J'en ai fait une en Crète récemment qui a duré un mois, qui était vraiment assez particulière parce que au milieu des montagnes, des chèvres et de la mer, c'était un mois seul. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'opportunité d'être un mois seul vraiment avec juste la nature. C'était assez amusant parce que étant corse et venant d'un village corse, là, je me retrouvais donc avec aussi une île avec une identité très forte qui est la Crète. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'observer ces gens qui vivent un peu en suspension entre la montagne et l'eau. Et vraiment, l'endroit où j'étais, c'était un endroit comme un peu béni des dieux, je trouvais, touché par la grâce. Vraiment un endroit particulier. Et ce que j'ai aimé, c'est de mettre ça justement en évidence et de photographier un peu plus les gens. Sinon, bah là, j'ai des résidences. J'en ai une à Marrakech bientôt. J'expose en Chine au sein d'une exposition collective en fin avril, début mai. Après, j'ai une exposition à Casablanca pour un duo show en décembre. Et c'est vrai que entre les résidences et les expositions, ça m'amène à pas mal bouger. Donc, ce que j'aime bien aussi, et en fait, ce qui est aussi un peu la qualité première du photographe qui est mobile et qui peut faire... Enfin, en fait, ce que je dis souvent, c'est que mon atelier, c'est le monde. Il y a quelque chose qui est assez plaisant là-dedans, c'est de pouvoir être toujours mobile.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe une résidence d'artiste ? C'est-à-dire qu'on te propose, on te met à disposition un lieu et en échange, il faut que tu fournisses un travail. Comment ça se passe ?
Ça dépend. Il y a effectivement des résidences qui proposent de nous accueillir en échange d'images ou d'œuvres. Après, je trouve qu'il ne faut pas forcément y attendre un échange. En fait, l'échange peut être plus spontané. Il y a vraiment des résidences assez différentes. Ma première était très inspirante, puisqu'en fait, c'était à la Villa Perrochon à New York, et une résidence photographique qui existe depuis 25-30 ans. Et en fait, on candidatait, on était plusieurs photographes internationaux, donc il y avait ce côté où on venait de cultures différentes et on concourait tous. Chaque année, c'est soit un commissaire d'exposition, soit un grand photographe. Là, il se trouve que c'était un commissaire d'exposition qui s'appelle François Cheval, qui s'occupe notamment qui s'est occupé pendant longtemps de Arles. Et donc, on était avec lui pendant un mois. Et en fait, pendant un mois, on avait à disposition beaucoup de... aussi bien des personnes qui nous aidaient à réaliser notre travail, mais aussi des bénévoles de la ville de New York qui également nous aidait. Donc en fait, pendant un mois, en fait, on avait un mois pour investir un projet, le réaliser et le montrer. Et en fait, c'était très stimulant parce que on a aussi appris à répondre à beaucoup d'interviews. Donc je dirais que c'était un coaching, un training par rapport à ce qu'on serait confronté un peu plus tard. Mais je dirais que c'était une parenthèse enchantée parce que c'était que du bon, dans le sens où c'était que de la bienveillance et qu'il n'y avait pas de côté compétitif, puisque en fait on montrait tous notre travail à la fin. Et entre les photographes, comme en plus chacun partait un petit peu pour ses aventures la journée, le soir on se retrouvait avec le commissaire d'exposition qui nous demandait comment on avait pu avancer pendant la journée et de voir comment les uns et les autres avançaient et de voir les démarches en fait créatives de chacun. C'était très inspirant aussi de pouvoir, c'est ça aussi les résidences, c'est vraiment les rencontres avec les autres artistes et de voir en fait comment eux créent. Et c'est souvent assez drôle de confronter les démarches.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ton travail, c'est que tu travailles en argentique. Donc, ça veut dire que tu ne vois pas tes photos quand tu les prends. ça va complètement à l'encontre de la manière dont la plupart des gens prennent les photos aujourd'hui. On prend des tonnes de photos avec nos téléphones, mais sans vraiment regarder. On les stocke, etc. Donc toi, t'es dans une démarche complètement opposée. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup, de cette démarche et de la manière dont toi, tu prends les photos ?
Après, moi, je trouve aussi intéressant cette culture de prendre... Enfin, je trouve ça drôle, je me dis toujours, quand je vois des gens avec leur smartphone prendre une photo de quelque chose qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'intérêt, je me dis toujours, ah mais tiens, mais qu'est-ce qu'il va faire de cette photo ? Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette photo ? Et effectivement, moi, j'ai une démarche complètement différente et complètement à l'opposé. Mais oui, l'argentique, je trouve qu'il y a quelque chose... limite de précieux, c'est-à-dire qu'en fait on déclenche pas l'appareil pour juste, enfin on réfléchit à notre cadre. Après moi j'ai un côté aussi très spontané, c'est-à-dire que il y a des photographes qui aiment bien mettre en scène beaucoup. Moi ça reste la mise en scène reste quand même très dans ce qui se passe au moment T. Le rapport à l'argentique, c'est justement en fait ce rapport au temps. Moi j'aime bien prendre le temps. Et c'est vrai que le fait que je prenne une photo, je puisse la découvrir parfois un mois, deux mois plus tard. J'aime bien aussi pouvoir oublier en fait ce que j'ai pris. Et alors aussi, la manière dont je traite les images, c'est de justement pas les traiter tout de suite, c'est de les laisser reposer et d'y revenir après pour les cadrages. Il y a vraiment un rapport au temps qui est très, très, très différent avec justement l'usage du numérique. Mais après, l'argentique aussi permet une profondeur, un piqué et un grain que n'aura jamais en fait le numérique, puisqu'en fait, le numérique, quelque part, aplatit, enfin, en tout cas, je trouve, aplatit un peu les choses et met un peu tout au même plan. Et régule beaucoup les choses, alors que l'argentique, il y a une part d'incontrôlable, d'immaîtrisable, que je trouve très intéressante, de ne pas pouvoir justement tout maîtriser. Enfin, quand même, mon travail, c'est quand même aussi se faire rencontrer deux images qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Toujours ce hasard, voilà.
C'est un peu un retour aux sources, finalement.
Et aussi, j'aime bien l'idée qu'il y a un matériel concret. En fait, le négatif, ce qui est assez drôle, c'est qu'il se passe toujours des histoires de négatifs. Ça, on peut les perdre, les retrouver. Enfin, c'est assez drôle. Voilà, c'est comme parfois des bijoux, on les oublie, puis on les retrouve. Enfin, j'aime bien cette idée d'archive. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup autour de l'archive. Mon premier, j'avais réalisé un court-métrage et où justement j'avais beaucoup pris un accès aux archives et tout le travail que j'ai réalisé là à Niort pendant un mois, c'était autour d'archives familiales et où j'ai retrouvé je me suis plongée dans des histoires familiales à travers l'archive et en essayant de créer une continuité avec ma photographie aujourd'hui, des souvenirs qui étaient familiaux en fait inventés à ces personnages de famille, leur inventer une histoire avec des images d'aujourd'hui que j'ai faites moi, mais en fait on ne sait pas quelle est l'image d'aujourd'hui, quelle est l'image d'avant, et en fait de troubler complètement les repères spatio-temporels. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est qu'on ne sache pas où est-ce que la photo a été prise, quand est-ce qu'elle a été prise, et de troubler ces repères-là, c'est vrai que c'est ce qui m'amuse. Donc un retour aux sources... j'aimerais bien, mais en fait non, parce qu'en fait il y a toutes les époques qui se confondent dans mes photos. J'aime bien cette idée là
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier?
Que chaque journée soit très très différente, qu'on s'ennuie jamais.
Et c'est quoi le plus difficile dans ton travail?
Bah, de se réinventer. Oui, j'ai peur la peur de se répéter, ouais. Mais je pense que c'est pour tout beaucoup d'artistes.
C'est qui pour toi les femmes photographes qui ont bouleversé l'histoire de la photographie?
Hier j'étais à l'entrée d'Annie Leibovitz à l'Académie française. C'est vrai que c'était assez inspirant parce que c'était Anna Wintour qui lui remettait son épée d'immortel. Et en fait, je suis allée voir Annie Leibovitz, qui est pour moi une source d'inspiration énorme. Je me souviens d'être allée me perdre à Luma, à Arles, et d'avoir été très particulièrement touchée parce que, en fait, fait, je venais d'apprendre que ma sœur était malade et j'arrive, je ne pouvais pas rentrer à Paris parce que les trains étaient complets. Et j'arrive dans les archives en fait, de l'UMA et en fait, il y avait cette exposition d'Annie Leibovitz, enfin, une espèce de rétrospective. Et en fait, elle photographiait sa complice Suzanne Sontag, qui est morte d'un cancer. Et en fait, elle la photographie alors que, bah voilà, elle est dans ses derniers jours. Et en fait, elle dit cette phrase, elle dit « Je n'ai pas deux vies distinctes. J'ai un travail de commande et un travail personnel. Et en fait, je ne fais pas la distinction entre les deux. J'ai une vie, en fait. » Et en fait, je photographiais, il se trouve, ma sœur pour un travail de commande. C'était des vestes. Et en fait, on est resté une photographie qui est plus artistique que de commande, même si ça fait un tout. Est né de cette photo un projet qui a eu lieu à l'hôpital Saint-Louis en extérieur en octobre dernier pour Octobre Rose, où j'ai photographié donc des femmes qui étaient malades et où justement l'idée du projet c'était de les faire rentrer dans une œuvre d'art et de se dire que c'était un moment de vie qui était difficile, mais aussi qu'il pouvait y avoir des moments très forts et poétiques dans ces moments douloureux. Et voilà, c'était exposé donc dans les jardins pendant tout Octobre Rose. C'est un projet qui se poursuit et tout ça pour revenir à
c'est magnifique comme projet. Ouais. Et les femmes, elles se prêtaient au jeu facilement?
Les femmes se prêtaient au jeu, on leur avait évidemment posé la question. Donc, c'était des profils très différents, beaucoup de jeunes quand même, qui avaient dit oui. Donc, peut-être qu'un rapport au corps qui était plus facile, je ne sais pas.
Tu photographiais les visages ou tu les photographiais
Non, je les photographiais en fait dans un lieu qui leur évoquait quelque chose.
Ah, donc, pas forcément au sein de l'hôpital?
Non. L'idée, c'était justement de sortir complètement du cadre de l'hôpital. Et d'ailleurs, les photos étaient exposées en extérieur. Et c'était justement les photographier en extérieur, hein, complètement en dehors des soins, et de leur proposer un moment qui était à part. Et l'idée aussi, c'était de les rencontrer. En fait, j'ai passé parfois une heure sans photographie, en fait, ces femmes. C'était de les rencontrer d'abord et après d'arriver à capter quelque chose, soit un regard, soit une posture, mais de révéler leur puissance aussi à travers un geste, voilà, ou un regard.
C'est magnifique, ça devait être bouleversant de les rencontrer avant, etc.
Ouais, c'était. J'appréhendais beaucoup parce que, des inconnus qui vous font confiance. Et en fait, pas du tout. Enfin, ce qui était assez fabuleux, c'est qu'à chacune des séances, je ressortais en ayant une pêche incroyable.
Et après, elles étaient contentes de l'exposition?
Elles étaient contentes, elles étaient très contentes. Et là, d'ailleurs, il faut que le projet va certainement continuer pour octobre prochain et de pouvoir justement continuer un lien. Et alors, certaines ont récupéré les photos qui étaient exposées directement dans les jardins. Donc, elles ont leurs photos en grandeur nature chez elles. Mais là, je vais justement leur remettre des tirages plus petits.
Magnifique. Mais du coup, oui, tu parlais de cette femme photographe qui t'avait beaucoup inspirée et que tu avais eu la chance de rencontrer lors de son entrée à l'académie.
Oui, on s'est beaucoup éloignés depuis. Oui, j'aime bien, j'ai un peu un esprit en escalier parfois.
Non, mais c'est moi qui ai creusé, parce que je trouve ça super ce que tu as fait par rapport à la mise en lumière de ces femmes malades à travers ton travail.
Mm-hmm. Et ça sortait un petit peu aussi de ce que j'ai l'habitude de faire aussi. C'était plus du portrait, donc j'étais contente de commencer le portrait avec ces femmes-là, voilà.
Du coup, tu voulais redire quelque chose sur cette photographe?
Sur Annie Leibovitz, non. Hier, c'était assez amusant parce qu'elle me disait... je parlais un petit peu avec elle en anglais et elle me disait « just do it ». Et je trouve ça tellement vrai. En fait, je trouve que parfois, il ne faut pas trop le faire. Moi, j'ai vachement ce truc-là, c'est-à-dire de faire. Et puis, ce n'est pas grave si on rate. C'est beau. En fait, c'est beau aussi de savoir que parfois bah, c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais voilà.
Mais justement, je trouve ça intéressant parce que tu as eu du coup le déclic, cette petite voix qui te murmurait de te lancer dans l'art, enfin en tout cas, tu avais envie de t'exprimer, donc ça se fait à travers les photos et bientôt peut-être à travers le cinéma. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent pas s'écouter et qui font pas forcément les métiers de leurs rêves ou qui ont cette petite voix intérieure, ce petit côté artistique qu'ils n'arrivent pas à développer. Toi, tu l'as eu, je trouve ça merveilleux. En plus, tu arrives à en vivre, tu nous en parleras après. Mais du coup, tu penses que tout ça, c'est lié à ton éducation, à le cheminement, des rencontres, etc., qui ont fait qu'un jour, tu t'es dit, bon, bah, je m'écoute et je vais essayer de faire de mon métier ce que je suis.
En fait, ce qui était assez étonnant, c'est que mes sœurs sont artistes. Ma grande sœur est comédienne et ma petite sœur est illustratrice. Mon père est photographe. Et en fait...
Et ta maman fait quoi ?
Ma mère travaille dans la mode. Et en fait... j'avais cette injonction. Comme j'étais bonne en classe et que j'étais un peu... Oui, j'étais bonne élève, donc il y avait cette injonction à ce que moi, je ne sois pas artiste. Donc, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, toi, tu vas gagner de l'argent, tu vas pouvoir... Mais justement, en fait, on peut gagner de l'argent en étant artiste et il n'y a pas de tabou avec ça.
Mais comme tu étais forte à l'école, tu pensais que tu allais avoir peut-être un parcours un peu plus...
Scolaire,
on va dire.
Je ne sais pas, je ne suis pas très forte en projection, j'aime beaucoup le moment présent. Quand je me projetais, j'ai pensé à plein de choses, à pilote de ligne, parfumeur, tout était possible.
Mais t'as peut-être été élevée là-dedans aussi.
Pas tellement, même si je pense que, en tout cas, un goût pour la curiosité, oui, ça, certainement. Puis un attrait pour le cinéma, pour l'art, pour la littérature, oui, ça, c'est certain. Après, c'était plus des invitations. Voilà, je pense que en plus on pouvait, en tout cas il y avait moins cette liberté à faire tout ce qu'on voulait, non, je pense pas. Mais après, si, quand même, j'aime bien l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais jeune et que voilà, mes parents étaient dans leurs histoires, ils nous ont eus très jeunes, donc ils ont été parents-enfants. Et donc,
c'est-à-dire très jeune,
20 ans. Donc, en fait, quand même, on était très...
Une fratrie de filles.
Ouais, que des sœurs, quatre sœurs, ouais. On nous laissait très tranquilles, très libres. On ne s'intéressait pas beaucoup à nos études. Mais il y avait quand même, ma mère avait toujours eu cette notion de gagner de l'argent, mais que je trouve très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle quand même qui ramenait, qui faisait tourner la maison. Et je trouvais ça assez inspirant d'avoir cette femme qui se démenait tout le temps pour qu'on ait tout ce dont on ait besoin. Donc, c'était beau. En tout cas, c'était...
Moderne, surtout.
Moderne de voir une femme qui mène sa barque aussi bien et d'avoir un père qui était artiste, mais qui s'est quand même beaucoup occupé de nous, qui faisait la cuisine. Enfin, c'était des rôles inversés. En tout cas, dans le patriarcat aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait...
Bien sûr qu'on voit plus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quand même pas du tout la norme.
Ouais. Non, mais c'est ce qui est drôle, c'est que du coup, le truc que je trouve très beau, le féminisme, mais en tout cas, c'est une vague qui me parle peut-être moins qu'à d'autres, parce que en fait, pour moi, les femmes ont toujours...
C'est la normalité.
Pour moi, les femmes ont le pouvoir depuis toujours. Enfin,
T'as été élevée là-dedans, quoi.
J'ai été élevée complètement là-dedans. Ma grand-mère aussi, une femme très inspirante, elle avait aussi que des sœurs. Donc en fait,
mais tu disais qu'il y avait que j'ai écouté une interview, tu disais qu'il y avait que des femmes dans ta famille.
Ouais. Enfin, je dirais que c'est les femmes qui font la famille. Les hommes ont certes leur importance, mais je trouve que quand même, ce sont les femmes, et d'ailleurs, il y a toute une étude qui dit que les familles de femmes sont plus heureuses, en tout cas.
Ah oui ?
Je ne sais pas si c'est vrai.
Je suis ravie parce que j'ai trois filles.
Mais en tout cas, oui, c'est vrai que les femmes... Enfin, en tout cas, moi, j'ai autour de moi beaucoup d'exemples de femmes fortes.
Donc, ça t'a forcément inspirée ?
Oui, ouais, complètement, ouais. Surtout ouais, ma grand-mère, ma mère, mes soeurs. Oui, vraiment, enfin...
Oui, et puis surtout, j'imagine que tu avais aussi cette notion, elle a dû transmettre cette notion d'indépendance, d'être artiste, mais en revanche, faut en vivre, quoi.
Complètement, ça, c'était vraiment hyper important. Je me souviens, quand on était plus jeune, c'était de gagner notre vie. Elle avait gagné...
D'être indépendante.
Ouais, elle avait gagné sa vie très, très tôt, très jeune. Et c'était d'être indépendante et de ne rien devoir à personne, c'est-à-dire de pouvoir se débrouiller seule. Ouais, ça, c'était hyper important. C'est vraiment une notion qu'elle nous a apprise, vraiment.
Et c'est le cas aujourd'hui ?
Oui, c'est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je la remercie de ça parce que c'est un beau cadeau. En fait, ça donne la niaque de se dire que bah, voilà, tous les mois, il faut trouver un moyen. Et en fait... Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, mais ça ne te perturbe pas ?» Ça pourrait perturber certains, mais je ne sais pas comment dire. Il y a ce truc de bah, « Je vais trouver, en fait. On va trouver, en fait. On va se débrouiller. Il y a quelque chose qui va tomber, une commande. Et j'ai plus du tout cette peur du mois prochain, qui peut arriver évidemment au début. Au tout début, c'est le cas, hein.
Mais bah,
en fait,
sûr.
Plus on ouvre la main et plus on reçoit de choses dedans. C'est-à-dire qu'en fait, aussi d'accepter plein de projets, d'être généreux dans les projets aussi qu'on nous propose, et bah, en fait, on accueille tellement plus de choses dans la main que quand on a le poing serré, en fait.
Faut pas hésiter à donner, quoi.
Aussi, voilà.
Oui, parce que dans l'art, quand même, les artistes femmes ont émergé tardivement. C'est quoi la place des femmes dans l'art aujourd'hui ?
Justement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Cercle de l'Art, qui est un collectif de 102 femmes artistes. Et Margot Derry, la fondatrice du collectif, part du constat qu'effectivement, très peu de femmes sont représentées en galerie et dans les musées. Et justement, en fait, ce collectif, c'est un collectif d'entraide avec des artistes à des moments de leur vie professionnelle différentes. Et justement, en fait, on se porte les unes les autres. C'est un collectif aussi qui vise au mois d'avril, donc très bientôt, à vendre à des collectionneurs des œuvres d'art, en fait, en leur proposant de mensualiser leur paiement, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur œuvre lors du premier paiement. Et en fait, sur 12 mois, on échelonne cela. Et en fait, ça permet à l'artiste d'avoir comme un petit salaire, puisqu'il a plusieurs collectionneurs qui font ça. Et pour le collectionneur, ça aussi, ça permet de pouvoir apaiser un petit peu sa dépense. Donc voilà.
Vous êtes plus forte à plusieurs, en fait.
Voilà, on est plus forte à 102 et on se porte beaucoup les unes les autres. On s'aide. Enfin, c'est aussi beaucoup un réseau d'entraide. Et on reçoit des cours. Il y a des résidences qui sont organisées pendant l'année. Il y a beaucoup. Enfin, c'est un programme qui est très complet. Et qu'a initié Margot Derry, qui est artiste aussi. Et en fait, c'est assez beau de se dire qu'une artiste offre à d'autres artistes la possibilité de grandir. Voilà, je trouve que... c'est l'essence du projet.
C'est plus dur pour les femmes dans l'art ? Enfin, ou dans la photo ? Dans toi, tu trouves que c'est plus compliqué quand on est une femme ?
Non, parce que comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas été éduquée avec cette vision-là. Après, en tout cas, oui, c'est ce qu'ont tendance à dire les femmes du collectif. Mais moi, je ne crois pas trop. En fait, j'ai jamais pensé comme ça. En fait, j'ai jamais pensé à « je suis une femme ». Donc non. En plus, je trouve que les hommes ont une part de féminin. On a une part de masculin aussi. Enfin, je trouve que... Non, j'ai jamais pensé comme ça, mais je sais que pour certaines, oui, c'est plus difficile. En tout cas, je m'identifie pas à ça. Voilà.
C'est vrai que quand on pense au métier d'artiste, on se dit toujours que ça ne doit pas être évident de jamais savoir de quoi sera fait le lendemain. Donc il y a évidemment c'est ce qui vous porte et c'est des choix de vie. Et tu dis, bah, financièrement, aujourd'hui, ça y est, tu arrives à en vivre. Après, aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Le côté un peu, est-ce que dans 6 mois, je vais pouvoir encore en vivre, etc. C'est des choses auxquelles tu penses ?
Moi, j'avoue que j'aime bien le côté bohème aussi, de ne pas trop savoir. Et je pense que j'ai grandi aussi comme ça. Hein, c'est-à-dire, on ne sait pas trop, on s'adapte. Voilà. Et dans le projet de fonder une famille, on s'adapte. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà.
Génial. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à des jeunes personnes artistes qui aimeraient bien se lancer pour essayer d'en faire un métier, une vie, mais qui n'osent pas forcément ou qui se disent non mais c'est impossible quoi.
De se fier à son instinct, de oser déplaire, je le disais récemment dans une interview, de pas vouloir plaire, de faire ce que nous on sent et ouais, de faire en fait. Il faut pas se dire qu'on va se tromper, en fait, ça n'existe pas de se tromper. C'est justement ça, c'est un chemin et moi je dirais de y aller en fait. Si on le sent, on le sent et d'avoir confiance. Alors ça, c'est un travail hein, d'avoir confiance, mais je pense que en fait en faisant, eh ben on se donne confiance. Voilà.
Selon toi, il faut être inconscient pour être artiste aujourd'hui ?
Non.
Le choix de tes projets, enfin j'ai déjà la réponse, mais le choix de tes projets, c'est intuitif ou rationnel ?
Et justement, par rapport à ta question d'avant sur l'inconscience, ce qui est intéressant, c'est que il faut un peu d'inconscience pour créer, mais en revanche, je trouve qu'il faut beaucoup de conscience pour justement mener ses projets. Parce que dans l'art, il y a beaucoup de propositions aussi qui peuvent être parfois pas très carrées. Et d'arriver en fait à nous, en
fait. C'est-à-dire pas très carré.
Ou parfois, en tout cas, les conditions ne sont pas... ça peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas.
C'est-à-dire on te demande de faire un truc et on ne te paye pas.
On nous propose de travailler gratuitement. Parce que ça va nous donner quelque chose, une image ou je ne sais quoi. Et ça, je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on peut évidemment être généreux dans notre. Mais tout doit partir du cœur et pas de l'ego, en fait. De se dire, ah bah, en fait, j'ai envie de faire ce projet gratuitement. Ok, mais c'est parce qu'en fait, je réfléchis avec l'amour de ce que j'ai envie de donner à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, c'est pas...
Ça
doit venir de l'artiste. Et en fait, de dire, ah, mais ça va te servir pour ton image, non. Ça, j'y crois pas du tout. Non.
Faut se méfier.
Ouais.
T'as déjà eu des mauvaises expériences ?
Non, j'ai pas eu de mauvaises expériences, mais... Parce que j'arrive justement à mettre un espèce de paravent aux mauvaises expériences et si je vais dans un projet j'y vais à fond donc je me mets pas dans des choses où ça peut devenir compliqué en tout cas. Et c'est aussi à nous de se dire, de parfois, si la proposition n'est pas très carrée, ne semble pas très carrée, et ben de justement, en fait, de clarifier, de poser les bonnes questions, de mettre les limites, de donner les limites aussi. C'est très important.
Le choix de tes projets, c'est intuitif ou rationnel ?
Pour les deux. Non, je dirais intuitif. Je dirais intuitif. Non, franchement, je dirais que intuitif. Pas très peu. Non, le rationnel a pas beaucoup de. Non.
Qu'est-ce que tu peux dire justement à nous, maman ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à nos enfants de trouver leur petit côté artiste qu'ils ont tous en eux ? Comment essayer de faire en sorte de pas les brider justement ?
Justement, en fait, de mettre en valeur leurs idées un peu farfelues et. Récemment, en fait, je montrais à mon beau-fils l'exposition à Marseille. C'est une exposition collective, donc chez Faces. Et je voyais qu'il avait une approche réaliste et en fait, il regardait les œuvres avec plus avec son innocence d'enfant. Et en fait, parce qu'il est dans cet âge entre 7 et 8, où voilà, il y a un peu cette innocence. Et en fait, ce que je lui ai dit après, n'oublie pas que voilà, il y a tes rêves. Et en plus, il a des idées formidables, fantastiques et très farfelues. Et justement, de jamais quitter son âme d'enfant. Et moi, ce que j'essaye toujours, c'est de me rapprocher de l'enfant que j'étais. Donc, de leur dire... en fait, je trouve qu'ils ont... En fait, c'est pour nous des inspirations de dingue. Donc, en fait, j'ai aucun conseil à leur donner. C'est justement d'être... de faire confiance en leurs idées complètement, parfois, déconnectées du réel. Et que je trouve... hyper inspirante pour nous. En fait, c'est eux qui ont des conseils à nous donner. Nous, on n'a rien, on n'a aucun conseil à leur donner. C'est justement de se faire confiance dans les idées, même qu'elles soient complètement rêvées, fantastiques, ahurissantes, et que ça les habite, en fait. Que, ça puisse, que ces idées-là, ben, ils peuvent y croire, en fait.
C'est à nous de les regarder pour nous inspirer.
Exactement. Ça j'en suis convaincue. Moi, ils m'inspirent tout le temps, les enfants. Hein.
Génial. Merci beaucoup.
Non.
C'est quoi la place de la famille dans ta vie ?
Oh, très importante. J'ai une famille qui est en espèce de clan, on peut le dire. Et je pense que parfois, le clan, bah, ça peut être génial, porteur. Et ça peut être aussi... faut pas non plus rester trop dans le clan. Comme on dit en Corse, ni trop proche, ni trop loin. Et j'aime bien cette idée-là aussi par rapport à la famille. C'est-à-dire que la famille, c'est magnifique, mais c'est, voilà, parfois, c'est aussi un peu complexe. Et il faut arriver à se dire, à sortir, rentrer. J'aime bien cette idée-là aussi. Et après, par rapport à... Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille très aimante et d'arriver en fait à se dire bah moi aussi je vais construire une famille très aimante. Ça c'est aussi un challenge et je trouve ça assez beau.
C'est une pression quand t'as été dans une famille comme ça, une grande fratrie de filles hyper proches.
Je me dis qu'en fait la famille hyper proche, la grande fratrie va alimenter aussi cette famille et c'est ça qui est assez beau, de voir aussi nos familles grandir ensemble. Voilà, moi j'ai jeté une pierre il y a peu de temps puisque je lance un peu le bal des petits-enfants et des enfants, voilà.
T'es l'aînée ?
Non, je suis la deuxième. On est très proche avec ma sœur aînée, mais non, je veux dire très proche aussi en âge.
C'est quoi ton rapport à la Corse ?
Rapport beaucoup d'enfance et beaucoup aussi autour de la famille.
T'as passé toutes tes vacances là-bas ?
Oui, et puis plus que des vacances, c'est un lieu qui remue pas mal, même familialement. je trouve que les étés là-bas, c'est toujours c'est un petit film, c'est une pièce de théâtre qui se joue chaque été, donc c'est assez drôle. Mais le rapport à la Corse, c'est quand même beaucoup le rapport à la nature aussi, et puis des paysages qui sont... je viens du Cap Corse, donc c'est des paysages qui sont... Enfin, qui laissent pas tranquille et indifférent. C'est des paysages très puissants où, franchement, j'ai beaucoup voyagé. Et à chaque fois, je me dis toujours « Ah, mais il y a rien de plus beau que la Corse. » Alors bon, peut-être un peu chauvin, mais non, je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas mal voyagé et qui se disent ça. Après, l'insularité, je trouve ça plus compliqué parce que ça, il y a aussi le microcosme et ça je trouve ça voilà. Après moi je viens d'une famille justement de navigateurs, d'explorateurs, puisque c'était des Corses qui sont partis en Amérique du Sud.
Ah, donc t'as des racines corses.
Moi ouais, oui vraiment.
Ah ouais, ouais, t'es corse,
ouais,
quoi.
Ouais. Ah, complètement ouais. Ouais, complètement.
Ah, et des deux parents?
De mon père, ouais. Mon père vit là-bas, ouais. Donc oui, c'est quand même, en tout cas les Cap-Corsins, c'était des navigateurs, puisque c'est ceux qui sont le moins tournés vers la montagne. Donc je pense que ça aussi, forcément ça influe sur nous aussi, ce goût de l'ailleurs.
Tu disais qu'il y avait beaucoup d'histoires qui se répétaient dans ta famille. Ça signifie quoi pour toi, les schémas répétitifs ?
Justement, il faut essayer d'en sortir. Tout l'enjeu, c'est de transformer, en fait, et de ne pas tomber dans les schémas répétitifs. En fait, plus on a peur de répéter, je pense, eh ben, plus on répète, en fait. C'est ça aussi, c'est que de pas tomber dans la peur, mais d'arriver à être dans la transformation, ça, c'est hyper important, je pense. Et en plus, plus on se dit qu'on a peur, bah plus on a peur. Et du coup, ça nourrit, ça alimente le truc. Donc non, l'idée, c'est de sortir. Et je pense que la création est pas mal pour ça. C'est qu'en fait, d'arriver à mettre nos peurs... Moi, je fais pas mal d'aquarelles aussi. Et c'est vrai que le dessin aussi permet quelque chose de plus spontané, en tout cas. Puis il n'y a pas l'interférence avec un médium qui est l'appareil photo, puisqu'on est directement avec le crayon. Et ça c'est pas mal. J'aime bien transformer mes peurs avec de l'humour dans des dessins. Ça, je le fais beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'explorer un peu plus, parce que j'ai beaucoup de dessins que je n'ai jamais montrés. Il faudrait que j'arrive à les faire sortir de leur mal. Voilà.
Comme t'es photographe, tu voyages beaucoup, j'imagine que tu vois beaucoup de choses concernant la planète. Est-ce que t'as envie d'apporter quelque chose à travers ton travail pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'on aille moins dans le mur ?
Parfois, on a l'impression de remuer une épée dans l'eau quand on fait des petites choses. Je crois beaucoup au colibri et au fait que le colibri, en fait, il y a un énorme incendie dans la forêt et il apporte sa petite goutte d'eau sur l'incendie, et les autres oiseaux lui disent « Mais pourquoi ?» Il répond « J'ai fait ma part ». Et je trouve ça très beau, en fait, de se dire que chacun peut faire sa part. Bon, on fait du mieux qu'on peut. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un projet avec un regard et un enjeu écologique. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, mais c'est vrai que c'est évident que ça me parle énormément. Et que j'aimerais beaucoup, en tout cas, participer à un projet de... Voilà.
Pour la planète.
Exactement.
C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux et aux smartphones ?
D'être le plus loin possible, c'est-à-dire qu'en fait, de répondre de manière très efficace. Je trouve que c'est un outil indispensable, formidable, mais en même temps d'arriver à justement le considérer que comme un outil et de surtout pas qu'il remplace le cerveau ou les doigts, quoi. Enfin, c'est hyper important, ça. Enfin, voilà, qu'il reste un outil.
Toi, tu prends des photos avec ton smartphone ?
Bien sûr, je prends des photos avec mon smartphone, évidemment. Je prends pas mal de films. Je m'amuse beaucoup à mettre des films, à capturer, à faire des vidéos un peu sur le vif de situations drôles, en tout cas que je trouve drôles ou inspirantes.
Voilà. C'est qui les femmes qui t'inspirent au quotidien ?
Oh, j'y ai un peu répondu quand même pendant cette interview. C'est beaucoup ma famille quand même. C'est sûr, les femmes qui m'inspirent. Je pense qu'on est un peu parfois le prolongement des 5 personnes qui nous entourent le plus. Alors effectivement, il y a ma famille, la fondatrice de notre collectif, le Cercle de l'Art, Margot Derry. Après, il y a plein de femmes dans le cercle qui m'inspirent énormément. Donc ça aussi, c'est de pouvoir accéder à un réseau où on a les mêmes enjeux et les mêmes besoins. Parfois. Ça, c'est très porteur aussi, et d'avoir accès aussi à d'autres femmes artistes. Après, moi, ma belle-mère m'inspire beaucoup. Enfin, il y a plein de femmes, en tout cas, que je trouve fortes, qui m'entourent, et ça, c'est vrai que c'est assez porteur.
Et aujourd'hui, tu vis à Paris ? Ou t'es à moitié à Paris, à moitié à Marseille ?
Alors oui, je vis un peu entre deux villes et aussi beaucoup à l'étranger, puisque pas mal de résidences et d'expositions à l'étranger. Oui, une vie un peu entre deux villes, mais j'aime bien cette idée-là aussi.
Tu te vois où à terme ?
Bon, partout.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Franchement, le conseil qu'elle m'a donné hier, Annie Leibovitz, just do it. mais c'était tout bête, hein. C'est tout bête, mais... mais c'est tellement vrai. Moi, si, ma grand-mère est quand même, elle me dit souvent, ne prenez pas la vie trop au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant. Je trouve ça assez inspirant. Et aussi, une autre phrase que je me dis souvent, c'est la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Je trouve ça assez beau, voilà, d'avancer en s'adaptant.
Maintenant, on va passer sur une note plus légère. C'est quoi ton petit déjeuner ?
c'est un café ou un chocolat ou un thé très rapide en bas de chez moi avec des femmes très inspirantes au kiosque. C'est un endroit que j'aime beaucoup avec justement c'est une femme assez incroyable qui a monté ça qui s'appelle Elisa Gauthier et justement où elle bouge des montagnes aussi, elle me fait rire et du coup le matin on a un peu un petit rituel, c'est de prendre un café en bas chez moi, ça s'appelle Kiosque, c'est justement pour mettre en lien les gens ensemble, justement d'être comme au kiosque. Et alors moi j'ai pas de petit déjeuner, mais j'aime bien l'idée de danser le matin, ça c'est hyper important, c'est de me mettre une musique et de
c'est
danser
génial. Ce tous matin. Les matins
ouais bah ce matin je l'ai fait ouais
c'est génial. Ton parfum.
Mon parfum, c'est on plonge dans les souvenirs d'enfance, c'est l'eau de bon point à la fleur d'oranger.
L'application dont tu ne pourrais te passer.
Toutes, je pourrais me passer de toutes.
Ton dernier fou rire.
Mon dernier fou rire, il y en a plein. Mais mon dernier, je pense que c'était hier soir. Où en fait j'étais très touchée par mon père qui essaye d'arrêter de fumer et donc il est dans son petit village et il va à Bastia voir une hypnotiseuse pour essayer d'arrêter de fumer et en fait j'étais bouleversée, je trouvais ça super touchant et en fait j'ai un côté très protecteur avec mon père et du coup mes beaux-frères me regardaient et me disaient mais en fait vous êtes touchée par lui et pas par nous qui allons le matin à 8h dans le métro et qui allons affronter un travail, en fait vous êtes touchée par votre père qui va juste essayer d'arrêter de fumer et ça nous a fait rire, voilà, c'était drôle.
Tes dernières larmes.
C'était hier soir aussi, je peux le dire. Mes dernières larmes d'émotion avec mes sœurs, puisque j'ai eu la joie de leur annoncer que j'étais enceinte. Et je sais que pour elles, ce n'est pas forcément évident. Et donc, c'était un peu une forme de bonne nouvelle, mais aussi de mélanger aussi à un peu de culpabilité. Voilà.
Ton prochain voyage.
Mon prochain voyage, c'est samedi. Je pars à l'île Maurice avec ma mère. Incroyable, je suis jamais partie avec elle et je me dis qu'au moment où on va être maman, de partir avec sa mère, c'est un peu un moment privilégié. Je me suis dit ça peut arriver qu'une fois dans une vie. Et donc du coup, je l'ai supplié de partir en lui disant pas que j'étais enceinte. Et c'était assez chouette de se dire on va partager ça. Et je lui ai annoncé là il y a peu de temps. Donc voilà.
Génial, tu vas faire des photos.
Oui. Et après, je pars à Rio avec mon amoureux. Donc, il fait 65 degrés, ça va être chouette.
Ton dernier achat.
Mon dernier achat, si c'était une robe, pas pour partir, justement. C'est pas très intéressant.
Un livre.
Un livre, alors il y en a plein. S'appelle L'Isola d'Arturo, qui est un livre que mon père m'avait grandement conseillé. Et en fait, je trouve ça assez beau parce qu'en fait, Elsa Morante et Moravia, qui étaient ensemble dans la vie, et en fait, ne sont jamais séparés dans les bibliothèques. Et je trouve ça assez beau, cette idée-là. En fait, ils sont toujours... effectivement, ils s'appellent Moravia et Morante. Et donc, c'est plus facile de les mettre à côté dans une bibliothèque. Mais quand même, s'il y avait un auteur qui s'insérait entre les deux, il faut forcément qu'ils soient à côté. Donc, je trouve ça assez beau, cette idée d'amants littéraires inséparables.
Une femme qui t'inspire, s'il n'y en avait qu'une ?
Ma grand-mère, ouais, si, ma grand-mère.
Ta devise ?
Ma devise.
Ou une phrase, ou un petit... quelque chose qui te drive. Après, ça peut être ce que tu as dit tout à l'heure. Attendons que l'orage passe, apprenons à...
Non, ouais, la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être tellement de choses. Ouais, ça peut être ça. Allez, soyons fous.
Si on a envie de voir ton travail, comment on fait ?
Alors, plusieurs choses. Il y a quand même Instagram qui est pas mal parce que, en fait, on propose avec le collectif du Cercle un portfolio pendant le mois d'avril. On a des portes ouvertes de visites d'ateliers qui vont avoir lieu, en tout cas, pour ma part, fin avril. Sinon, j'ai une exposition collective qui est à Marseille en ce moment. Il y a pas mal d'expositions qui arrivent, mais aussi une en septembre à Paris, mais collective aussi. On peut voir mon travail quand même pas mal à l'atelier, mais effectivement, dans plusieurs expos prochainement.
Si on voit une de tes photos qui nous plaît et on a envie de l'avoir en vrai ou avoir plus d'informations,
le mieux, c'est de prendre contact effectivement avec moi. Après, il y a aussi des galeries qui relaient mon travail. Mais il y a le portfolio du cercle surtout. Ça, c'est vraiment sur le cercle de l'art.
C'est un site internet ?
C'est un site internet. Après, les portfolios, je pense, seront publics cette année sur le site du cercle.
Super. Ben, merci beaucoup, Joséphine.
Voilà. Ben, merci à toi. Merci à toi de l'invitation. J'étais trop contente.
Je suis ravie d'avoir une photographe dans Milken Mama.
Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite.